Podcast, série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, round 2, partie 3. L'affaire Epstein, donc, un pervers au cœur des réseaux de pouvoir. Epstein est mort alors qu'il aurait dû être surveillé, et aujourd'hui, on ne sait pas si ses complices ou les clients des filles mineures qu'il prostituait seront un jour inculpés. Cela n'en prend pas le chemin, mais en tout cas, du tréfonds de leurs vacances, Schiappa et Taquet, les pieds nickelés de la protection de l'enfance, nous ont sorti un communiqué de presse pour demander l'ouverture d'une enquête sur les activités d'Epstein en France. Attention, attention les yeux. Avec le recul, à part Brunel, on attend toujours. Et les médias français semblent découvrir que cette affaire existe alors qu'elle dure depuis 10 ans. Grand moment. D'ailleurs, on peut quand même signaler que cet article sur l'affaire Epstein était sur notre site donc depuis 2015. Et que nous, on hallucinait complètement hein, que cette affaire soit ignorée par l'ensemble des médias du monde, alors que c'était quand même évident. Et même le carnet d'adresses, le fameux carnet noir, on l'avait déjà, nous. C'était déjà téléchargeable, le PDF. Au début, il avait été caviardé. Et puis finalement, on avait pu avoir une version non caviardée. Enfin, c'est quand même seulement voilà, quasiment 10 ans plus tard, ou même 15 ans plus tard, que enfin c'est sorti dans les médias. Voilà. Reprenons. Cette agitation de Schiappa et Taquet est étonnante, car Epstein a forcément des connexions importantes chez nous pour atterrir et décoller comme il le voulait avec des mineures étrangères. On va y revenir, mais en tout cas, ce serait bien la première fois que les politiques cherchent à faire la lumière sur un réseau pédocriminel. N'en déplaise à Régis de Castelnau, un soi-disant ténor du barreau qui prend toujours position de manière étrange, on va dire, dans les affaires de pédos. Grand ami de Paul Bensoussan, qui est un pseudo-expert, pareil, qui défend toujours les pédos et qui tape sur les victimes, et marié à l'avocate Florence Rau, qui défend les accusés de pédocriminalité. On l'a vu également en œuvre dans différents procès. Certains doivent être un peu inquiets dans notre pédolande, car pas trop, car ils savent bien qu'ici, officiellement, enfin, pas trop inquiets quand même, car ils savent bien qu'ici, officiellement, les réseaux pédocriminels n'existeront jamais. On a vu qui était Epstein, son parcours surprenant dans le monde de la finance, on va aborder plus en détail ses différentes activités. La fortune d'Epstein a toujours posé question aux observateurs. Il semblait riche à millions sans qu'on sache bien d'où provenait cette fortune. Epstein avait plusieurs propriétés, deux avions, un Boeing et un jet, ainsi qu'un hélicoptère, qui voyageait beaucoup et avec beaucoup de monde. Clinton, par exemple, a fait une vingtaine de voyages avec lui, notamment jusqu'à Hong Kong, Singapour, la Thaïlande et le sultanat de Brunei, ou encore vers une base navale US au Japon, où l'avion est resté 2 jours. Dans ces avions, Epstein pouvait transporter des mineurs et leur faire passer les frontières sans la moindre difficulté, y compris en France. Son argent lui a servi à financer des campagnes électorales. On a ainsi appris tout récemment que certains d'entre eux avaient reversé l'argent à des associations, comme Stacey Plaskett, député démocrate des îles Vierges, qui a reçu de l'argent pendant plusieurs années. Le sénateur démocrate de New York, Chuck Schumer, ou Bill Richardson au Nouveau-Mexique, accusé par l'une des victimes d'avoir profité de son exploitation sexuelle. On pourra rappeler quand même que l'île, donc détenue par Epstein, aux îles Vierges, donc les îles Vierges, évidemment, c'est un paradis fiscal, hein, donc. De 80 à 2003, la presse US a calculé qu'Epstein aurait donné au moins 139 000 dollars à des démocrates, dont Clinton. Ce qui paraît pas si énorme que ça, dans un pays où il n'y a pas vraiment de limite en fait, au financement des campagnes des partis. Ce qui semble assez peu vu les sommes récemment révélées. Virginia Roberts, dans ses déclarations, a affirmé qu'Epstein et Maxwell l'ont envoyé très rapidement faire des massages à divers politiques, comme Bill Richardson, George Mitchell ou encore Stephen Kaufman, un autre démocrate. Du coup, ils étaient tous redevables à Epstein, et les filles aussi étaient envoyées chez des financiers, des patrons de multinationales, des avocats, des acteurs et d'autres VIP. Et puis il y a cette île, aux îles Vierges, achetée en 98. Epstein y a même construit un mini-temple aux couleurs d'Israël, orné de 2 chouettes dorées, dans laquelle il semble qu'il y ait des tunnels. Le FBI y a fait une petite excursion le 12 août. Les connexions. Finances. Epstein, dont la justice estime aujourd'hui la fortune à environ 560 milliards de dollars, dont 56 en cash, commence donc dans la finance chez Bear Stearns, où il rencontre un tas de businessmen, de banquiers, de politiques et de gens aussi riches qu'influents. Sa fortune a très vite suscité diverses interrogations, car il ne déclare presque aucune activité de ses sociétés. Au sujet de son passage à Bear Stearns, disons qu'il lui a permis de se faire un carnet d'adresses et pas mal d'argent avant de se faire virer. Selon une procédure qu'il a lancée contre la banque, Epstein détenait environ 176 000 actions de Bear Stearns pour près de 18 millions de dollars en août 2007. Quand la crise de la banque a commencé en 2007, le cours de l'action s'est effondré, mais il a quand même réussi à en revendre un paquet avec la banque Davis. Ce mois-là, il a vendu 56 000 actions à 101 dollars, elles étaient à près de 160 dollars fin avril 2007, puis 120 000 autres en mars 2008 quand la banque a coulé, mais avec de grosses pertes. Il a revendu 20 000 actions à 35 dollars et le reste à 3 dollars. Il aura aussi perdu 50 millions dans un fonds spéculatif appartenant à Bear Stearns. Après avoir été viré, Epstein lance en 1981 Jeffrey Epstein et compagnie, un fonds de placement qu'il gère pendant 15 ans. C'est à cette époque qu'il se rapproche de Larry Summers, alors président de l'université d'Harvard, donc qui est soi-disant l'université la plus huppée des États-Unis, une université à laquelle Epstein fera de nombreux dons et qui deviendra secrétaire au trésor de Clinton et conseiller d'Obama. C'est là aussi qu'il rencontre Alan Dershowitz, ami et fan de Donald Trump, qui deviendra son avocat, également Lexley Wessner et tout un tas de scientifiques. Intéressons-nous de plus près un instant à l'argent de Wexner. Selon certains, une partie de l'argent d'Epstein viendrait de Wexner, mais leurs relations d'affaires sont assez mystérieuses. Dans les années 80, Epstein officie pour Wexner en tant que conseiller financier et devient en 91 son chargé de pouvoir dans sa boîte historique, L. Brands Incorporation, mais il est probable qu'il le conseillait surtout pour les moyens d'évasion fiscale. Et certaines mauvaises langues disent que Wexner était le seul client de Epstein à l'époque. En 1995, Epstein a aussi été directeur de deux fondations appartenant à Wexner, la Wexner Foundation, qui vise à renforcer la communauté juive et ses leaders, et sa filiale, la Wexner Heritage Foundation. Il a aussi été président de la Wexner Anna Property Incorporation, une société qui était sur le marché du développement d'une ville près de Columbus. Wexner affirme aujourd'hui qu'il a coupé les ponts avec son ancien ami depuis ses ennuis judiciaires, ce qui est étonnant car à ce moment, personne ou presque ne lui a tourné le dos. Et puis en 2008, Epstein donne 46 millions de dollars à un fonds de charité tenu par la femme de Wexner, tandis qu'en 2011, c'est une maison à Manhattan appartenant à Wexner qui a été transférée à Epstein par un circuit financier offshore. Wexner lui aurait aussi filé son Boeing 727. Et début août, Wexner s'est réveillé d'un coup, accusant publiquement Jeffrey Epstein de lui avoir piqué plein de fric. Il parle de plus de 46 millions de dollars, mais a priori, on est encore loin du compte. Alors c'est assez étonnant, on voit que Wexner aujourd'hui affirme qu'il a été abusé, ses limites, extorsion d'une personne vulnérable parce que démence, sénilité. Plus vraisemblablement, Epstein le tenait d'une manière ou d'une autre, et quand quelqu'un te tient, finalement, on se tient tous par la barbichette, on a un côté de confiance réciproque, il te demande des choses que tu peux pas refuser, et finalement, vaut mieux essayer de rester dans des bonnes relations plutôt qu'être en conflit ouvert, puisque il te tient, quoi. Notamment, imaginons, faisons une hypothèse farfelue, Epstein ait des vidéos de Wexner en train de violer des mineurs. Bon, ça change un petit peu la nature des relations qu'on peut avoir avec un ami, on va dire. Continuons. Pyramide de Ponzi, à 450 millions de dollars. À la fin des années 80 et jusqu'en 93, une magnifique fraude s'est déroulée avec Epstein comme protagoniste de premier plan. La dite fraude a vu la condamnation, en 1997, à 20 ans de prison de Steven Offenberg, le patron de Towers Financial Corporation. Mais bizarrement, Epstein est passé à travers de cette procédure. Du fond de sa prison, Offenberg dénonce depuis 2013 son ancien bras droit, Epstein, avec qui il travaillait au quotidien dans les années 80, et l'accuse d'avoir pleinement participé à la pyramide de Ponzi en question. D'ailleurs, il pense qu'une partie des millions d'Epstein viennent de là, ce qui est très probable. 200 000 personnes avaient été touchées pour plus de 500 millions de dollars. Offenberg déclare que l'argent serait parti dans un fonds créé par Epstein aux îles Vierges en 1996, le Financial Trust Company. On retrouve les îles Vierges. Il a déposé plusieurs plaintes, de même que les victimes contre Epstein, en vain. Ce qui est certain, c'est qu'une multitude de sociétés écrans offshore, qui sont basées dans les paradis fiscaux, des LLC notamment, ont été créées par Epstein, comme l'ont montré les Paradise Papers. Donc c'était une fuite de type, on va dire, Wikileaks sur les paradis fiscaux. Or, il est connu que ces sociétés servent quasi exclusivement à frauder et à blanchir de l'argent sale. En tant que bon gestionnaire de fortune, Epstein conseillait à ses clients sur les meilleurs chemins de l'évasion fiscale et probablement que certains de ses secrets se trouvent aussi de ce côté-là. Jusqu'en 2013, la banque privilégiée d'Epstein était, nous dit-on, JP Morgan. Puis il s'est rabattu sur la Deutsche Bank, qui a eu la bonne idée de ne s'interroger qu'en 2018 sur ses différents comptes. Ce qui lui a permis de réaliser de nombreuses transactions, signalées à contre-cœur aux autorités de régulation pour suspicion de fraude. Epstein aurait ainsi transféré des millions de dollars issus de douzaines d'œufs et vers différents comptes via la Deutsche Bank. L'argent d'Epstein n'est pas que le sien, il joue aussi avec celui des investisseurs dont il gère les actifs. Il y a aussi très probablement des détournements d'argent, dont ces pyramides de Ponzi, pourtant très faciles à détecter. Et puis il y a tout son business offshore, tous ses investissements dans les startups technologiques. À cette époque, les affaires d'Epstein sont florissantes. Un article paru en 2002 dans le magazine new-yorkais relate les propos d'un financier de la place de New York à propos d'Epstein. Je cite: Il m'a dit une fois qu'il avait 300 personnes qui travaillaient pour lui, et j'ai aussi entendu qu'il gérait l'argent de Rockefeller. Fin de citation. Apollo Management, donc on va voir de quoi il retourne, mais vous pouvez vous intéresser à cette structure qui a été impliquée dans bien d'autres choses que l'affaire Epstein. Epstein était également proche, jusque très récemment, des dirigeants d'Apollo Global Management, un des plus gros fonds d'investissement et de gestion d'actifs qui gère notamment les 5 milliards de retraites des fonctionnaires californiens, en particulier de son patron et cofondateur Leon Black, qu'il connaît depuis les années 90. Alors Apollo, c'était également ceux qui géraient les fonds de retraite des agents des services secrets américains, il me semble. Est-ce que c'était la NSA, la CIA ou les deux, je ne me souviens plus. Vous retrouverez ça sur Internet assez facilement. Epstein venait lui rendre visite dans les bureaux pour parler stratégie fiscale avec les dirigeants. Le lien entre Epstein et Apollo était plus étroit que les déclarations des uns et des autres ne le laissent penser aujourd'hui. En 2015, Leon Black a envoyé le cofondateur d'Apollo, donc Mark Rowan, à une réunion au domicile d'Epstein à Manhattan, avec des représentants du groupe Edmond Rothschild, Ariane de Rothschild et Cynthia Tobiano, pour discuter d'un rapprochement commercial des deux entreprises. Par ailleurs, depuis au moins 2001 et jusqu'en 2012, Epstein était directeur de la Leon Black Family Foundation. Mais Black et la fondation disent qu'en fait, il est parti en 2007 et qu'il s'agit d'une erreur. Oui, on n'a pas actualisé le site internet, ça doit être ça. En 2015, Black et Epstein faisaient toujours affaire ensemble. BV70 LLC, une fondation de charité déguisée sous un trust, contrôlée par Black, a reçu 10 millions de dollars de la fondation Epstein, qui s'appelait Gratitude America. C'est beau, ça fait rêver. Epstein a aussi investi en 2011 dans Environmental Solutions Worldwide, donc les solutions environnementales pour le monde entier, qui crée des produits de contrôle des émissions avec plusieurs personnes proches d'Elon Black, dont ses quatre enfants, donc des émissions de carbone. Des directeurs exécutifs d'Apollo sont aussi au conseil d'administration de cette société. Donc Environmental Solutions Worldwide, ESW, a eu quelques ennuis, notamment en 2002, quand la SEC, donc c'est le policier de la bourse américaine, suspectait son président d'alors, Bengt Hodner, d'avoir participé au détournement de 15 millions de fonds de l'entreprise. Alors, il faut savoir que la SEC, déjà pour les faire bouger, ils ont fermé les yeux sur tellement de choses depuis 2008. Bon, bref, passons. En 2011, ESW, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 12 millions de dollars à peine, a aussi déclaré 9 millions de pertes. À partir de 2015, plus aucun bilan n'a été publié. Allez, on s'intéresse aux fondations. Donc vous savez qu'aux États-Unis, les fondations, c'est un gros business ultra défiscalisé pour pouvoir agir et planquer du fric sous prétexte de caritatif, d'humanisme, voilà, de philanthropie. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus en Europe, mais aux États-Unis, c'est vraiment un énorme business. L'exemple le plus connu, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et puis vous allez avoir également les fondations Rockefeller, les fondations Ford, les fondations, voilà, Tavistock Institute, plein plein de choses comme ça. Plus ou moins sérieuses, plus ou moins universitaires, qui influencent le débat, qui font du lobbying. Voilà, donc on y va sur les fondations. Sur l'aspect financier des magouilles d'Epstein, il faut aussi mentionner ses fondations, en plus de celles qu'il a gérées, notamment pour Wexner ou Leon Black. On peut parler d'un petit empire de la philanthropie, ce truc indispensable aux riches pour compléter leur panoplie du VIP. Difficile de dire combien il en possède, puisqu'elles sont hébergées aux îles Vierges et fonctionnent comme des sociétés offshore lambda. L'argent est distribué de tous les côtés, à des programmes de recherche, à des associations ou à des fondations appartenant à ses copains ou on ne sait où. Il y a la maison mère, la Jeffrey Epstein 6, donc sixième du nom, Foundation, créée en 2000 aux îles Vierges. Il y a aussi Enhanced Education, donc promouvoir l'éducation, créée en 2002. Gratitude America, créée en 2012, les deux aux îles Vierges. L'objectif de Gratitude America est de financer, je cite, « des organisations dans le monde qui cherchent à célébrer les États-Unis d'Amérique ou les idéaux américains ». C'est quand même extraordinaire. Imaginez la même chose quand même, une fondation qui aurait pour but d'organiser dans le monde à célébrer la France et les idéaux de la France. Ouais, faut que j'arrête, ça va donner des idées. En 2016 et 2017, elle a financé une école orthodoxe juive UP de filles à Manhattan, un programme de tennis pour les jeunes, une crèche d'Harlem, une association de lutte contre le cancer, la troupe de théâtre d'Harvard et la Kuhl Foundation au MIT et dans d'autres programmes divers et variés. Donc le MIT, la Massachusetts Institute of Technology, qui est, on va dire, au niveau des sciences appliquées, l'établissement le plus coté dans le monde. En 2016 et 2017, Gratitude America a aussi donné 100 000 et 50 000 dollars à la Bruce and Marsha Moskowitz Foundation, appartenant à un proche de Trump qui interfère dans la politique nationale et qui figure aussi dans le carnet d'adresses d'Epstein. À un moment, il a aussi eu la COUQ, la Cook Foundation, qui a existé de 1999 à 2012 et a donné 25 000 dollars à la fondation des Clinton, donc qui s'occupe notamment d'adoption à Haïti. Suivez mon regard et vous allez aller sur Internet pour voir de quoi il retourne. La Jeffrey Epstein Virgin Island Foundation, ou encore la Epstein Interest Active de 92 à 2013, gérée par les mêmes personnes qui changent de rôle de temps en temps et dont les fonds se déplacent d'une structure à l'autre. Donc évidemment, il y a beaucoup de blanchiment d'argent à toutes ces structures sous couvert de caritatif. Une partie de l'argent finissait dans les campagnes électorales. Epstein a déclaré que sa fondation avait donné plus d'une centaine d'organisations depuis 2008, année où il a plaidé coupable des faits de recours à la prostitution. De 2015 à 2017, il dit que sa fondation, Gratitude America, a donné 1,84 million à plusieurs associations du pays. Mais selon les médias, plusieurs de ces associations qui auraient été bénéficiaires des largesses d'Epstein disent qu'elles n'ont rien reçu, ou alors beaucoup moins qu'annoncé. La Cook aurait aussi donné 500 000 dollars en 2007 à la Ramaz School de New York, où son avocat Jay Lefkowitz, également conseiller des deux Bush, est impliqué, ou 250 000 dollars à la Foundation for Criminal Justice, dont un autre de ses avocats, Gerald Lefkort, était membre du conseil d'administration. Début 2008, Epstein a versé 46 millions de dollars à la Fondation de Wexner, YLK, qui déclare pourtant qu'à cette époque, elle avait déjà pris ses distances. La YLK, créée par Madame Wexner en décembre 2007, ne subventionnait apparemment que la Columbus Foundation, qui finance elle-même des initiatives pour renforcer la communauté. YLK a fermé dès 2009 et ses actifs ont été transférés au Wexner Family Charitable Fund, donc un autre fonds de la famille Wexner. Les circuits financiers liés au transfert d'argent via ces fondations ressemblent à ceux du blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale. Effectivement. Mafia. Si les connexions de Trump avec la mafia depuis ses débuts dans l'immobilier commencent à être connues, celles d'Epstein le sont moins. Pourtant, à ses débuts, Epstein était entouré de gens qui avaient gravité dans l'entourage d'un sulfureux avocat, Roy Cohn, gay, de son état, bien qu'il condamnait publiquement l'homosexualité, puisqu'il était de droite et anticommuniste, mais surtout maître chanteur. Parmi ces personnes, Trump n'était pas le dernier. Il a été lui-même très proche de Roy Cohn, mort en 86. Mais il y avait aussi le mania des médias, Rupert Murdoch, Alan Dershowitz ou Mort Zuckerman, autre propriétaire de médias. Cohn, qui avait été l'assistant du sénateur McCarthy, donc le McCarthyisme, c'était dans les années de la guerre froide où on faisait la chasse aux sorcières des communistes, et ce qui permettait de détruire la vie de gens sous prétexte qu'ils pensaient mal. Voilà, je vous renvoie au McCarthyisme. Donc, Cohn aimait aussi les people et était très proche de la mafia juive, menée à son époque par Meyer Lansky et d'autres mafieux enrichis grâce à la prohibition. Lewis Rosenstiel et son partenaire Samuel Bronfman, ainsi que des gens du Congrès juif mondial et du Bnei Brit. Donc, le père de Ghislaine Maxwell, donc on en a déjà parlé, avait été président du Congrès juif mondial. Le Bnei Brit, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est la franc-maçonnerie juive. Voilà, c'est franc-maçonnerie, mais tu rentres que si t'es juif. Dans les années 50 et 60, Cohen et Rosenstiel organisaient des soirées qui leur permettaient de faire chanter des personnalités. Par exemple, en 58, au Plaza Hotel de Manhattan, suite 233. Hoover y était habillé en drag queen et des adolescents mineurs également. Cohen, Hoover, Rosenstiel ont eu des relations sexuelles avec eux. Hoover se serait fait avoir au moins deux fois par Cohen et Rosenstiel. Les deux fois, il y avait des garçons mineurs avec lesquels il a eu des rapports sexuels. Donc, il était tenu. Cohen a déclaré à James Rothstein, de la police de New York, chef de la division Trafic humain et mœurs, qu'il faisait partie d'une organisation chargée d'organiser le chantage sur des politiciens. Ah, tiens donc. À l'aide de mineurs prostituées, et son rôle était de faire venir des garçons et d'amener les cibles, même réticentes, à passer à l'acte. Ah, mais comme quoi, hein, c'est pas nouveau. Selon lui, cette opération de chantage s'inscrivait dans le cadre de la lutte anticommuniste à l'époque, même si les soirées qu'il organisait et ses chantages ont duré jusqu'aux années 80. Alors, de toute façon, il y a toujours une bonne excuse, hein. C'est pour la bonne cause, comme ils disent. Cohen évoque aussi un lien avec le Watergate, avec l'épisode méconnu du vol d'un black book au Parti démocrate avec les noms de politiciens pédos des deux partis. Livre qu'à ma connaissance, on n'a jamais pu mettre la main dessus, retrouver. Il est également proche du cardinal Spellman, du diocèse de New York, gay de son état également, et qui était présent au moins à une des partouzes au Plaza de Manhattan. On notera que Trump a ensuite racheté le Plaza Manhattan, qui s'appelle donc désormais le Trump Building, si je ne m'abuse, où il a organisé des soirées dans les années 90, avec de la coke, de très jeunes mannequins, et qui finissaient en partouze. Les informations étaient remontées au renseignement américain et à la mafia, bien sûr. Il se trouve que les soirées d'Epstein ressemblent quand même beaucoup à s'y méprendre, à ce schéma. Les mannequins. Depuis les années 80, quand il se faisait passer pour un recruteur de modèles pour la marque Victoria's Secret de son ami Wexner, Epstein apprécie le milieu du mannequinat. Et forcément, c'est là qu'on trouve de la chair fraîche, des jeunes filles vulnérables qui ont des étoiles plein les yeux, loin de leur famille, souvent. Et à qui on peut faire à peu près n'importe quoi, par exemple leur piquer leur passeport. Donc après, c'est plus compliqué. Allons-y avec Jean-Luc Brunel, de son vrai nom, Jean-Luc Benchamoul. Un de ses amis d'antan, Jean-Luc Brunel, ils se sont brouillés depuis, soi-disant, était présent à moult partouzes, selon les déclarations de plusieurs victimes et selon les messages entre lui et Epstein qui ont été saisis. Brunel est le fondateur et propriétaire à 85% en 2010 de l'agence de mannequinat MC2 Models, basée à Miami et Tel Aviv. Il dit avoir découvert Monica Bellucci, Sharon Stone, Jerry Hall et bien d'autres stars des podiums. Avant cela, il dirigeait Karine Models, également basée à Paris. Je cite, selon Virginia Roberts et d'autres témoins, il a procuré de nombreuses filles étrangères à Epstein et à d'autres via son agence de mannequins. Et Epstein s'est vanté devant elle d'avoir couché avec plus de 1000 filles de Brunel. Fin de citation. Certaines de ces filles fournies par Brunel étaient mineures, et c'est lui qui a emmené les plus jeunes aux soirées d'Epstein. Virginia Roberts a déclaré en 2015 devant le tribunal qu'elle a été forcée à avoir des relations sexuelles avec lui de nombreuses fois entre ses 16 et ses 19 ans, année où elle a quitté le réseau. Ces faits ont lieu à Paris, dans le sud de la France, aux États-Unis et aux orgies sur l'île privée d'Epstein aux îles Vierges. Je cite. Il était un autre des contacts puissants d'Epstein qui avait de nombreux contacts avec des jeunes filles mineures partout dans le monde. En fait, la seule similarité avec Epstein et leur seul lien en amitié semblait être que Brunel pouvait trouver des douzaines de filles mineures et nourrir le solide appétit d'Epstein et de Maxwell pour des rapports sexuels avec des mineurs, a-t-elle précisé sous serment. Fin de citation. Selon elle, Brunel semblait avoir un, entre guillemets, arrangement avec le gouvernement américain pour obtenir des passeports et d'autres documents de voyage pour des filles âgées de 12 à 24 ans qui l'amenaient aux États-Unis pour des objectifs d'exploitation sexuelle. En fait, il ne gérait pas vraiment l'agence. Il passait son temps comme recruteur pour repérer des filles à travers le monde et leur proposer un boulot de modèle. Puis il en rabattait certaines vers les soirées d'Epstein ou les massages. En 2005, quand Brunel a créé l'agence MC2 Modèles et Talents, Epstein y aura investi 2 millions de dollars. Brunel a nié tout financement de l'agence par Epstein. Mais Maritza Velasquez, une ancienne collaboratrice, a déclaré aux enquêteurs que Brunel lui avait confié qu'Epstein finançait les appartements pour les filles, assurait les liquidités quand il le fallait. Et Brunel vivait dans un appartement qui appartenait à Epstein. Elle se souvient aussi qu'Epstein était en colère quand il n'a pas réussi à obtenir un visa pour faire venir Nadia Marcinkova, alors âgée de 14 ans. Marcinkova qui est devenue l'une des principales rabatteuses d'Epstein. Voilà une drôle d'agence qui a besoin de financement privé pour assurer son activité quotidienne, pendant que de grosses sommes d'argent étaient transférées aux îles Vierges. L'ancienne collaboratrice de Brunel, entendue par les enquêteurs, mentionne les liens de Brunel et Epstein avec le Brésil, où ils se procuraient des filles. Elle explique que les filles étaient payées 100 000 dollars, parfois 200 000 dollars, mais quand elles revenaient de ces quelques jours avec les bandes de tarés, elles ne voulaient plus jamais travailler pour ce genre de type. À savoir, qu'est-ce qui arrivait dans ces soirées? On imagine. Les deux ont aussi effectué de nombreux voyages dans les avions d'Epstein et Brunel, qui est allé lui rendre visite en prison. Un message manuscrit de Brunel à Epstein montre qu'il lui a réclamé une mineure de 16 ans, pas blonde, sachant donner des leçons de russe gratuitement, entre guillemets. Avant de lancer MC2, Brunel grouillait déjà à Paris dans le milieu du mannequinat et avait créé dans les années 70 une agence appelée Karine, devenue Karine Paris. À l'époque, selon le livre d'un certain Michael Gross, paru en 95, Brunel était considéré comme un danger qui aimait la drogue et les viols silencieux parce que ça l'excite. Non mais. Waouh! Une Néo-Zélandaise que Brunel avait recrutée à 17 ans et ramenée à Paris a raconté qu'il avait mis fin à sa carrière en répandant partout le bruit qu'elle était accro à la coke après qu'elle ait refusé de coucher avec lui. Il était réputé pour violer les filles avec son bras droit, dénommé Claude Haddad, qui pouvait se vanter de droguer et de violer des filles de 13 ans. Une journaliste qui a enquêté sur cette affaire a entendu cinq femmes qui ont déclaré avoir été agressées sexuellement par Brunel et ou par Haddad. Brunel a aussi travaillé pour l'agence Ford, qu'il a virée quand les rumeurs à son sujet sont devenues trop importantes. En 2017, Brunel a porté plainte contre Epstein pour lui avoir fait perdre des millions et l'avoir plongé en dépression. Oh, sniff, sniff, sniff. À cause de la mauvaise pub qui lui faisait les ennuis judiciaires. Oh là là. À cause des massages. Bref, on commence à s'amuser et même Mediapart a enfin parlé de lui dans un long article. Trump Models. Trump lui aussi avait créé son agence de mannequins, tu penses? Appelée Trump Model Management en 99. La boîte amenait des filles aux États-Unis depuis l'étranger, notamment l'Europe de l'Est et la Russie, avec des visas de tourisme, ce qui signifie qu'elles n'avaient pas le droit d'y travailler. Pourtant, certaines y restaient plusieurs années de suite. Trump en détenait 85% et l'agence lui rapportait environ 2 millions par an. Dans les années 80-90, Trump était aussi un grand ami de John Casablancas, patron de l'agence Elite, qu'il avait fondée en 72, et qui couchait avec ce recrue mineur au vu et au su de tous. Je vous laisse chercher sur ce triste personnage. Casablancas traînait également avec Brunel et Haddad. En 96, Trump a racheté la franchise du concours Miss Univers, et en 99, il a lancé l'agence T-Models, devenue ensuite Trump Model Management. Puis il a décidé de lancer sa propre fille dans le mannequinat, et à l'âge de 13 ans, elle signait chez Elite, dont Trump connaissait parfaitement la réputation et où elle a mené une courte carrière. Quant à lui, il traînait dans les jurys des concours organisés par l'agence avant de lancer ses propres concours, comme Trump Realty Brésil, au Brésil, et au conseil d'administration duquel il y avait Casablancas. Intéressons-nous maintenant à Peter Listerman, citoyen russe. Il serait l'un des rabatteurs d'Epstein et allait chercher les victimes dans les collèges et les lycées. Il est réputé pour mettre en relation des types riches et de jeunes mannequins depuis des dizaines d'années et s'en vantait lui-même dans des interviews. Il ramenait des filles depuis l'Ukraine et la Russie pour les faire travailler dans des agences d'escorte, nos escort girls, c'est donc des prostituées VIP. Selon un article du New York Post, il a été vu alors qu'il rendait visite à Epstein, mais lui nie tout lien. Il parle des filles qu'il livre VIP comme des chickens. Donc il y a beaucoup de mots de code dans les pédophiles, notamment on retrouve ces mots de passe, ces codes, ce nom de code dans l'affaire du Pizzagate. Dans des chickens ou des génisses. Alors les chickens, c'est plutôt les garçons. En 2009, dans un tabloïd russe, il a dit, je cite, « Mes clients d'Hollywood et les oligarques sont lassés des filles moscovites, américaines ou européennes, émancipées, qui ressemblent à des robots. Tout le monde en a marre de ces filles démoniaques. Ils veulent de la douceur et du romantisme. » Fin de citation. De la douceur et du romantisme, donc en fait, des gamines innocentes. Voilà, évidemment. Selon le témoignage d'un mannequin qu'il a rencontré à 14 ans, Kristina Goncharova, Listerman lui a demandé de très nombreuses fois si elle était d'accord pour un mariage. D'ailleurs, il dit organiser des mariages entre types riches et jeunes filles des pays de l'Est. Allez, maintenant on va se pencher au domaine scientifique. En bon mégalo, Epstein était fasciné par l'eugénisme. Ah, ben voyons. Alors l'eugénisme, quand même, je vous conseille quand même de vous y pencher sur ce mouvement qui avait pignon sur rue au XIXe siècle. notamment à la famille Huxley, qui consiste en fait à des riches qui se trouvent plus intelligents que la moyenne et qui disent que bah, il faudrait quand même éliminer les pauvres ou au moins les améliorer en les sélectionnant ou en les tuant précocement ou doucement, suivant les versions de l'eugénisme. Je pense que ce sujet, vu l'époque qu'on vit actuellement en 2021, mérite d'y regarder d'un peu plus près. Je dirais qu'il est totalement d'actualité. Passons. Donc il était fasciné par l'eugénisme, même si ça prend la forme de recherches sur l'ADN et l'ingénierie génétique, et sur le transhumanisme. Pour financer ses délires, il a créé sa fondation en 2000, la Jeffrey Epstein, donc Six Foundation, qui investit dans la science et un peu dans l'éducation. Neurosciences, intelligence artificielle, physique, On a même appris qu'il comptait transformer son ranch en usine à bébés, avec son ADN évidemment, et qu'il voulait se faire cryogéniser le pénis. Donc le gars, quand même, il se dit qu'il va faire, donc comme la GPA, des usines à bébés, mais où lui paye tout, et en fait, il serait le père de 500, 1000 enfants. Enfin bref, vous voyez un peu le. T'es quand même sur une autre planète là. C'était même, semble-t-il, un grand sujet de discussion avec ses amis scientifiques. Il a fait dès les années 90 des chèques à l'université de Harvard, dirigé alors par son ami Lawrence Summers, pour financer des gros programmes de recherche menés par ses amis. Parmi les investissements dans la science, on va citer, via sa fondation, il a donné 30 millions de dollars à l'université de Harvard, notamment pour le programme For Evolutionary Dynamics, donc soi-disant de l'évolution, destiné à étudier les principes de mathématiques fondamentaux qui guident l'évolution, dirigé par son ami Martin Novak. Donc en 2003. Un des principaux donateurs aussi du Origins Project, poussé par des gens d'Harvard comme Steven Pinker ou Lawrence Krauss. On a appris aussi qu'Epstein avait parlé de nombreuses fois à ses amis scientifiques de son intention de mettre son sperme dans une vingtaine de femmes à la fois lors d'une partouze et de transformer son ranch en usine à bébés, une pratique assez courante, hélas, dans ce pays, afin de disséminer son ADN. En 2011, il a donné 20 000 dollars à la Worldwide Transhumanist Association, devenu Humanity Plus, ça passe mieux, via sa fondation, ainsi que 100 000 dollars pour le salaire de Ben Gortzel, le vice-président de Humanity Plus. Alors, il faut être clair, hein, le transhumanisme, en fait, c'est pas pour les smicards, et en fait, c'est le faux nez de l'eugénisme. Vous pouvez vous intéresser à Julian Huxley, qui était un chantre de l'eugénisme avant la Deuxième Guerre mondiale, et puis qui, après les méfaits du nazisme au nom de l'eugénisme, a bien été obligé de dire « Bon, oui, ok, bon, ben, on va appeler ça maintenant transhumanisme. » Voilà. Julian Huxley, donc son frère, Aldous Huxley, a écrit, en fait, ce qui se disait dans ses cercles et dans ses familles, et ce livre absolument nécessaire pour tout humain sur cette terre à lire, il s'appelle « Le meilleur des mondes »,« Brave New World ». Je continue. Donc il voulait se faire cryogéniser le pénis et disséminer son ADN dans le monde. Il a aussi investi dans la recherche sur l'intelligence artificielle menée par le OpenCog Group à Hong Kong et le MicroPsy Project 2 à Berlin. En 2013, un article de la fondation d'Epstein qui évoquait cet investissement précisait que la start-up berlinoise était sur le point de copier le cerveau humain. Ouais, alors là, je rigole doucement. Grâce à un programme développé par Yosha Bach, spécialiste des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle. Epstein a aussi de nombreuses fréquentations parmi les scientifiques les plus éminents aux USA et ailleurs. Alors, il y a une liste partielle sur son ancien site. On y voit Stephen Hawking, qui est venu aux îles Vierges, Marvin Minsky, spécialiste de l'IA, Virginia Roberts déclare qu'Epstein lui a demandé d'avoir des relations sexuelles avec lui sur son île. Ben Gortzel, donc d'OpenCog Foundation à Hong Kong, Joshua Barr, donc du projet berlinois, Stephen M. Koslin, Martin A. Novak, qui a dirigé le programme d'Harvard sur les mathématiques et l'évolution. Au sujet d'Epstein, Novak a déclaré en 2003, je cite, Je suis stupéfait par les connexions qu'il a dans le monde scientifique. Il connaît un nombre incroyable de scientifiques. Il connaît tout le monde. Fin de citation. Lawrence Summers, président d'Harvard de 2001 à 2006, donc on vous laisse intéresser à ce monsieur, Eric Lander, George Church, spécialiste de la physique moléculaire, David Gross, physicien, Frank Vilcek, physicien au MIT et partenaire de Gross. Renseignements, donc les milieux des services de renseignement. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le dur, hein. Epstein est en cheville avec les services de renseignement américains, à minima, et israéliens. Alexander Acosta, le procureur qui lui a permis de s'en tirer grâce à un accord illégal en 2008, a déclaré qu'il a agi de la sorte parce qu'on lui avait dit qu'Epstein appartenait au renseignement et qu'il fallait le laisser tranquille. Bonne manière de se défausser, ça. C'est du moins ce qu'il a expliqué à l'équipe Trump quand il a été recruté comme ministre du Travail. Et il a eu son entretien d'embauche. Il a été viré le 12 juillet suite au scandale, justement dans son rôle pour exactement cette affaire-là. De quel renseignement parle-t-il? Probablement des services américains, FBI, CIA ou autres. Car même en travaillant, comme on va le voir pour les Israéliens, Epstein n'aura jamais bénéficié d'une telle impunité s'il n'avait pas été aussi rancardé sur les services de sa terre natale. Selon Robert Steele, un ex-agent de la CIA, Epstein travaillait à la fois pour le Mossad et la CIA, donc un agent double, ce qui est relativement commun dans le monde du renseignement. Son but était de coincer et de faire chanter des personnalités politiques. Et il est assez évident que les Israéliens avaient été les seuls à bénéficier des tuyaux et magouilles d'Epstein, son impunité aurait été beaucoup plus courte de courte durée. Le FBI a publié une partie de ses dossiers concernant Epstein, mais ils sont tellement caviardés que cela en devient suspect. Mais on y découvre tout de même qu'Epstein serait devenu un informateur du FBI dans l'espoir d'éteindre la procédure de 2005 à 2008. Donc on peut se dire qu'il a été tamponné à cette époque-là, comme on dit. D'ailleurs, l'enquête fédérale à son sujet a été close quand Epstein a donné des informations au FBI sur les malversations qu'il connaît bien à la banque Bernstein. Il y a aussi les liens d'Epstein avec les politiciens et membres des services israéliens, via des investissements dans les startups de nouvelles technologies proches des renseignements, comme Carbine Limited, dans laquelle il a investi avec Ehud Barak, ex-premier ministre israélien et président de Carbine, qui espère faire son retour en politique aux prochaines législatives en Israël. Alors, maintenant on sait que ce retour a été complètement raté. Carbine, basé à Tel Aviv et à New York, a été créé en 2014 pour développer des technologies de communication ultra rapides pour agir en cas de crise, en utilisant toutes les sources de données disponibles. Ehud Barak et Jeffrey Epstein y ont investi dès 2015. Celle qui occupe le poste de directrice dans cette boîte est Nicole Junkermann, ancienne mannequin, née en Allemagne. Elle a grandi à Marbella, étudié le business à Monaco, puis à Harvard, et est aujourd'hui installée à Londres. D'après les carnets de bord des pilotes d'Epstein, elle a voyagé deux fois seule avec Epstein en 2002, trajet Le Bourget, donc Paris-Birmingham en Angleterre, et une fois en mars 2002 avec deux autres passagers. Comme elle est déjà 27 ans, il est peu probable qu'Epstein cherchait à lui sauter dessus. Elle a cofondé en 98 Winamax, donc le site de paris en ligne de foot et de poker, revendu en 2001. Je vous rappelle qu'il me semble que Winamax, ça appartient également à Patrick Bruel. Et d'un fonds de capital risque axé sur le sport, United Sports, en 2005. Je cite, depuis 2011, elle est revenue à ses racines dans l'innovation numérique et les technologies expérimentales, des domaines tels que la robotique, le génome, donc la génétique, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle, mentionne sa page sur le site Carbine. Fin de citation. Elle possède un fonds d'investissement, NGF Capital Limited, qui possède des actifs où la totalité d'une trentaine de startups réalise des investissements avec des personnalités de la Silicon Valley, comme Eric Schmidt, directeur de Google, l'ancien directeur, et Peter Thiel de PayPal, qui ont aussi investi 15 millions de dollars dans Carbine en 2018. Par ailleurs, son nom apparaît dans les fuites des Panama Papers, issues du cabinet Mossack Fonseca dans le cadre du scandale de corruption de la FIFA. Elle est l'ex de Robert Louis Dreyfus et est mariée à un magnat de l'industrie italien. Elle a été nommée récemment comme conseillère au sous-secrétariat à la santé et à l'aide sociale de Grande-Bretagne, dans le tout nouveau Health Tech Advisory Board, qui doit conseiller le ministre Matt Hancock sur la vision technologique de la santé et de l'action sociale. Ça fait rêver. Du coup, vision technologique de la santé et de l'action sociale. QR code, genre de trucs comme ça, peut-être. Parmi l'équipe de direction de Carbine, il y a aussi d'anciens militaires qui ont été impliqués dans les barbouzeries israéliennes, comme le PDG Amir Elishai, le directeur exécutif Pinchas Berkus, qui fut membre d'une unité d'élite de l'armée appelée IDF 8200, Cyber Intelligence Unit, et le cofondateur Lital Lechem, qui est toujours officier de réserve. Donc on parle de l'armée israélienne de Tsahal. On y trouve même comme expert un ancien flic anglais, Andy Rook, spécialiste des systèmes de transport intelligents et ex-conseiller des autorités anglaises et européennes en matière de sécurité routière, un réserviste de l'armée américaine dans la police militaire, Brett Whitney, pour le développement commercial, ou encore un ancien collaborateur de député américain et agent du bureau des affaires politiques à l'ambassade américaine en Afghanistan, Trey Stephens, qui a collaboré à l'équipe de transition de Trump pour le département de la défense en novembre 2016 et collabore dans Founders Fund, un fonds d'investissement lancé par le milliardaire Peter Thiel, également actionnaire de Carbine, membre du conseil d'administration de Facebook et supporter de la campagne de Trump, auquel il a filé 1,25 million pendant la campagne, et puis 250 000 dollars en 2018, et puis 6 autres gars. Et puis il y a la cofondatrice de Carbine, qui en possède toujours les parts, Lital Leshem, est une collaboratrice d'Eric Prince, le fondateur de Blackwater. Donc Blackwater, c'est une société militaire privée impliquée dans divers scandales et des changements de régime, également des trafics sexuels en Yougoslavie notamment. Aujourd'hui, ça a changé de nom, ça s'appelle Academy, s'il me semble. Récemment, Prince et Leshem disent qu'il avait une solution pour le Venezuela, à savoir installer 4 à 5 000 hommes sur place et mettre au pouvoir l'opposant de droite à Maduro, un scénario qu'on ne connaît que trop bien. Donc effectivement, ça donne écho à Guaido. Donc on parle bien de mercenariat, hein, c'est bien ça, les sociétés militaires privées sont des mercenaires. Selon le Times of Israel du 16 juillet 2019, je cite, Ehud Barak a déclaré au Daily Beast avoir rencontré Epstein à des dizaines d'occasions, et notamment après la révélation de l'organisation d'orgies sexuelles à ses différents domiciles, qui aura impliqué des mineurs, à Manhattan et aux îles Vierges. Mais il n'aurait jamais vu des mineurs chez lui ou participé à des partous. Fin de citation. Les mecs, ils sont quand même culottés. Carbine, qui s'est appelé durant des années Reportee Homeland Security, a aussi des liens avec l'industrie militaire américaine, notamment via Michael Chertoff, ex-conseiller de Bush, qui a écrit le Patriot Act sur la surveillance de la population, suite au septembre 2001, et siège au conseil de surveillance de l'entreprise. La boîte a également des liens avec des oligarques proches de Poutine, Viktor Vekselberg, un Ukrainien proche de Poutine, et Andrew Intrater, depuis septembre 2007, via Columbus Nova Technology Partners, une boîte pour laquelle Michael Cohen a été consultant jusqu'en 2017. Je cite, selon un média d'influence turque, Epstein a travaillé en étroite collaboration avec Israël, à l'avant-garde d'une initiative privée visant à apporter au secteur privé la technologie de pointe du renseignement militaire israélien offerte aux plus offrants. Fin de citation. Si c'est cela, il y a forcément des trappes dans les programmes qui permettent aux Israéliens d'avoir la main sur les données et ou les programmes. Donc on appelle ça des backdoors, quoi. C'est-à-dire que quand tu vends un programme en faisant croire à quelqu'un que c'est un super truc pour espionner, ben en fait à l'intérieur il y a une petite porte qui fait que tu récupères tout également, quoi. En tout cas, comme le note ce journal, TRT World, je cite, même si la société fournit des services d'intervention d'urgence, aucun des administrateurs ou des membres du conseil consultatif n'a de formation en système d'information d'urgence. Fin de citation. On peut aussi s'interroger sur le fait qu'un hélicoptère appartenant à Epstein a le même numéro d'immatriculation qu'un avion de la société militaire privée DynCorp, donc de mercenariat. Dans les années 80, déjà, Epstein disait à qui voulait l'entendre qu'il travaillait pour des gouvernements pour récupérer de l'argent détourné par des dictateurs africains. Bah voyons. Étonnant, au vu des circuits habituels de recouvrement de ce genre de magouille. Mais pourquoi pas. Et sur son site, Epstein se vante lui-même d'être un ancien membre de plusieurs comités. Donc il cite le Mind, Brain and Behavior Committee à Harvard, qui s'intéresserait au cerveau humain et au comportement. La commission trilatérale, je vous laisse rechercher, qui est quelque chose de un think tank soi-disant, mais très important au niveau des cercles mondialistes, et qui implique les Japonais. Le Council on Foreign Relations, le CFR, donc on est exactement dans le très haut, très haut, très haut du panier des gens qui ont du pouvoir dans la sphère occidentale. La New York Academy of Science, le conseil d'administration de la Rockefeller University et la Hedge Organization. Soyons clairs, on ne peut pas faire partie de ces organisations, même si la plupart sont plus ou moins tenues par les Rockefeller, si on est seulement un agent au service d'Israël. En particulier la trilatérale, au lieu de discussions informelles entre leaders politiques et économiques d'Asie, d'Europe et des USA, et le CFR, qui est l'un des instruments de la politique impérialiste US. Par ailleurs, on sait que ces villas étaient truffées de caméras et qu'ils conservaient les vidéos en plusieurs exemplaires et en divers endroits. Virginia Roberts a expliqué qu'elle avait demandé des bandes où elle figure à la justice et au FBI, mais ça lui a été refusé. Est-ce que le réseau servait à nouer des relations plus intimes avec des partenaires potentiels de business et tant qu'à faire, à avoir de quoi peser sur leurs décisions? Ça paraît effectivement l'évidence. Les liens avec Trump. Epstein et Trump se connaissaient depuis les années 80. En fait, ils sont voisins à Palm Beach et ont fait de nombreuses soirées ensemble. Le frère d'Epstein a témoigné en 2009 que Trump a voyagé au moins une fois dans les jets d'Epstein en 97 à partir de Palm Beach. Ils se sont brouillés fin 2004, début 2005 pour une histoire de propriété sur laquelle Epstein lorgnait et que Trump a racheté dans son dos pour la revendre trois fois le prix. Epstein a également confirmé leur lien, mais a fait appel au cinquième amendement quand on lui a demandé d'évoquer leur part tous commune. Donc le cinquième amendement, c'est le droit de se taire. On peut signaler, pour une petite parenthèse, que effectivement Trump, des gens qui ont enquêté sur Epstein, donc après les soucis d'Epstein à Palm Beach, avait dit que Trump avait très très bien collaboré, avait beaucoup aidé, donné beaucoup d'informations. Donc effectivement, on peut donner du crédit à cette théorie selon laquelle les deux se tenaient par la barbichette, avaient eu des différends, et qu'à un moment donné, peut-être que Trump effectivement s'est entre guillemets retourné contre Epstein au moment où il a vu qu'il commençait à être complètement grillé. Continuons, c'est une hypothèse. On a vu que l'avocat Roy Cohen représente un lien déjà consistant entre deux. Dershowitz en est un autre, même s'il tente de faire croire qu'il a pris depuis longtemps ses distances avec Epstein et qu'il fut un donateur des campagnes de Clinton. En effet, Dershowitz est bien introduit à Maison-Blanche, sous l'ère Trump, notamment dans le cadre de conseils au sujet des négociations de paix entre Israël et la Palestine, qu'il donnait encore en avril de cette année, 2019, à une équipe composée de Trump, de son gendre, Jared Kushner, de l'ambassadeur David Friedman et d'un envoyé spécial israélien. Dershowitz a aussi déclaré qu'il a parlé avec les conseillers de la Maison-Blanche avant que la décision de transférer l'ambassade US à Jérusalem, donc de Tel Aviv à Jérusalem. En 71, Trump a pris Roy Cohen comme avocat quand il a débarqué à Manhattan pour se lancer dans l'immobilier et a développé ses contacts, notamment du côté de la mafia. L'histoire de ce terrain est assez intéressante. En 2004, Epstein a parlé à Trump d'une villa qu'il voulait racheter à Palm Beach, pensant qu'il n'avait pas les moyens de la racheter. Mais Trump a réussi à obtenir un prêt de la Deutsche Bank, via une société baptisée Trump Properties, entièrement financée par la Deutsche Bank, et a pu mettre 5 millions de dollars de plus qu'Epstein, soit 41 millions au total. Il a ensuite rénové la maison et l'a remise en vente pour 125 millions, puis vendu 96 millions à un Russe proche de Poutine, Dimitri Ribolovlev, propriétaire de l'AS Monaco, qui n'y a jamais vécu. Le viol de deux mineurs de 12 et 13 ans. Revenons sur cet épisode, donc. Parmi les victimes d'Epstein, au moins une dénonce des faits commis également par Trump, Cathy Johnson. Elle a dénoncé des viols commis par Epstein et par Trump durant l'été 94 à Manhattan, quand elle avait 13 ans, en présence d'une autre victime âgée de 12 ans. Elle était arrivée en bus à New York pendant les vacances pour tenter de se lancer dans le mannequinat. Au moment où elle allait reprendre le bus pour retourner chez elle, elle a rencontré une certaine Tiffany, donc Tiffany X, qui a proposé de venir à une soirée pour y rencontrer des gens qui pouvaient l'aider. C'est comme cela qu'elle s'est retrouvée à 4 soirées chez Epstein à Manhattan. À la troisième, Trump l'a attachée à un lit, frappée et violée. Epstein, du moins ce qu'elle déclare. Epstein l'a violée à la deuxième et à la troisième soirée. Elle a ensuite été menacée par les deux et ils lui ont rappelé qu'ils étaient plus puissants et faisaient ce qu'ils voulaient. Et elle y est retournée encore trois fois. Elle mentionne à la troisième des quatre partouzes auxquelles elle a été amenée, une fillette de 12 ans qui a été forcée de participer aux faits commis par Trump et d'être également violée. Trump a dit à Cathy Johnson qu'elle devait se taire si elle ne voulait pas disparaître comme cette fille, Maria, âgée de 12 ans, impliquée dans le troisième incident avec Trump et qu'elle n'a jamais revue par la suite. Lors des faits, les deux filles avaient été forcées de s'habiller en servante. À la fin, Trump a jeté 400$ par terre à Cathy Johnson. Elle a expliqué dans sa déposition, je cite, Trump a dit que je ne devais jamais rien dire si je ne voulais pas disparaître comme Maria, une fille de 12 ans, qui a été forcée de participer au troisième incident avec Trump et que je n'ai jamais revue depuis, et qu'il était capable de faire tuer toute ma famille. Fin de citation. Entre les soirées, elle rentrait chez elle dans l'Oklahoma, puis Tiffany la rappelait. Dès qu'elle a signalé les faits à la justice, le 26 avril 2016, elle a reçu des menaces, des coups de fil anonymes, avec personne qui parle, et a demandé une mesure de protection. Selon la plainte rédigée par la justice dès 28 avril 2016, Trump a fourni une déclaration à American Media Incorporation et à Radar Online, LLC, disant que, je cite, « Ces accusations sont non seulement complètement fausses, mais dégoûtantes au plus haut point et clairement destinées à solliciter l'attention des médias. » Fin de citation. Il a aussi diffusé des documents d'ordre diffamatoire contre la plaignante. Le 5 novembre 2016, Cathy Johnson a abandonné la procédure. Il n'y a pas eu d'enquête sur cette jeune Maria. Les propos de Cathy Johnson sont largement confirmés par Tiffany X, qui l'a fait rentrer dans le réseau et était présente lors des faits. Entendue par la police en 2016, elle a expliqué qu'elle avait rencontré Epstein en 90 quand elle avait 22 ans. Elle a participé à une série de soirées en 90 et a été payée pour divertir un certain nombre des invités de M. Epstein. En 91, elle a été promue au poste de party planner, organisatrice des soirées du pervers, et job consistant ainsi à superviser personnellement les rencontres entre les mineurs ramenés par Epstein et ses invités. Je cite, elle explique que sa mission était d'amener des adolescentes attirantes à ces soirées. Fin de citation. Cela a duré de 91 à 2000 pour des soirées organisées à la Wexner Mansion à New York sur la 71e rue occupée par Epstein. C'est dans ce cadre qu'en 94, elle a rencontré Cathy Johnson qui allait repartir dans sa province et qu'elle l'a persuadée de venir chez Epstein, donc en lui disant que ça pourrait l'aider. Je cite, j'étais à ces soirées et j'ai personnellement été témoin quand la victime a été forcée de pratiquer différents actes sexuels avec Donald Trump et avec Jeffrey Epstein. Les deux savaient qu'elle avait 13 ans. Fin de citation. Elle a personnellement assisté à 4 relations sexuelles que la victime a été forcée d'avoir avec Trump. Elle mentionne le viol commis en présence de la fillette de 12 ans appelée Maria. Trump a forcé Cathy Johnson et Maria à lui faire des fellations et elle les a violées devant Tiffany X. Elle a aussi vu à 2 reprises Epstein tenter de violer Cathy Johnson. Elle a vu Epstein violer et agresser sexuellement des mineurs plus jeunes encore que Cathy Johnson. Elle a aussi assisté aux menaces de Trump et d'Epstein contre Cathy Johnson, y compris la menace de Trump de la faire disparaître comme Maria, la fille de 12 ans, et tuer toute sa famille. Quand elle a quitté son entre guillemets, « travail », elle a aussi été menacée elle-même et qu'on tue toute sa famille si elle parlait de quoi que ce soit, et elle savait que ces gens avaient les moyens de le faire. Elle les avait déjà vus à l'œuvre. Michael Cohen. Un autre lien entre Trump et Epstein est Michael Cohen. Ex-avocat de Trump et témoin clé de la procédure sur le lien de Trump avec la Russie. Ce grand fan de Trump a investi dans les projets immobiliers de son idole, a travaillé pour dans le Trump Organization, et quand Trump est devenu président en 2017, Cohen a créé une boîte qui s'appelle Essential Consultants pour monnayer l'accès à Trump. Donc il filtrait. La boîte aurait aussi servi et payé pour atteindre des procédures, notamment celles lancées par Stormy Daniels, donc je vous laisse regarder, contre Trump, et Karen McDougal pour des viols, qui ont été toutes les deux négociées pour à peu près 280 000 dollars, semble-t-il. Cohen, qui se serait vanté d'avoir menacé et fait pression pour le compte de Trump contre environ 500 personnes, représentait Trump dans la procédure contre Cathy Johnson. Il est également lié au business des nouvelles technologies via un des associés d'Epstein, l'anglais Andrew Intrater, qui est donc lui-même partenaire d'Ehud Barak, notamment dans Carbine. Intrater a été également entendu par la commission Mueller sur les liens de Trump avec la Russie pour ses liens avec Victor Vexelberg. Il est accusé d'avoir transféré 583 000 dollars à Cohen via sa société d'investissement Columbus Nova Technology Partner, dont les États-Unis disent qu'elle est une filiale du Renova Group qui appartiendrait à Vexelberg. Enfin, Wayne Madsen, donc un journaliste américain, ancien fan de Trump, a publié en février 2017 une liste de plusieurs procédures contre Trump pour des viols sur des mineurs, garçons et filles, qui ont été réglés à l'amiable à coups de millions de dollars. En France, aujourd'hui, le FBI s'intéresse aux activités d'Epstein hors des États-Unis. C'est heureux, et on sait, on espère vivement qu'ils s'intéresseront à la France, où Epstein a un domicile et d'où il revenait lors de son arrestation à sa descente d'avion sur le sol américain début juillet. Car on dirait bien que les autorités françaises manquent de curiosité à ce sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, au vu du dossier, disponible en ligne avec les témoignages, on ne peut que s'interroger sur certains points notamment. Comment Epstein a-t-il pu faire circuler des mineurs vers et depuis la France, avec à l'aéroport du Bourget, en avion sans aucun problème de douane? Et cela même après 2001 et le renforcement drastique des contrôles aux frontières. D'ailleurs, quand on regarde les trajets de l'avion de Epstein, il y a effectivement pas mal d'allers-retours qui vont entre Paris et New York. Qui étaient ces deux fillettes de 12 ans? Fournie par un de ses amis, Jean-Luc Brunel, selon certaines sources, pour son anniversaire, et qui sont partis de France jusqu'à Londres juste pour y être violés lors d'une partouze. Je cite, selon Virginia Roberts, elles venaient de France parce qu'elles étaient vraiment pauvres là-bas et que leurs parents avaient besoin d'argent, et elles auraient été amenées ensuite à Palm Beach. Fin de citation. Qui étaient les fréquentations d'Epstein en France? Car on suppose qu'il ne faisait pas l'ermite durant ses séjours au pays du droit des pédos. D'ailleurs, dans son carnet d'adresses figurent quelques personnalités du tout Paris, comme un ex de Caroline de Monaco, des décorateurs et stylistes jet-setters, des aristos. On peut notamment citer Madison Cox, qui est donc l'amant, l'ancien amant de Pierre Berger, c'est lui qui a refait toute l'île Saint-James dans les îles Vierges. Donc Pierre Berger, je n'ouvre pas le dossier, je vous laisse vous intéresser à qui est Pierre Berger, qui était également avec Yves Saint-Laurent, la vilaine Lulu, voilà, je vous laisse tirer les fils. Selon Maritza Vasquez, qui a travaillé comme contrôleur financier pour l'agence Karine à partir de 1998, puis pour MC2, en 2010, Epstein et Brunel avaient l'intention de créer une agence de mannequins à Paris avec une Française sur le modèle de celle de Trump. Le projet n'aurait pas abouti. On a appris le 12 août que le parquet de Paris avait transmis les éléments disponibles sur ce volet et ceux-ci seraient en cours d'analyse et de traitement. Nous reviendrons sur ce volet français de l'affaire. En conclusion, ce dossier est tentaculaire, on touche à l'ingénierie sur l'humain, au renseignement, au réseau de blanchiment et de détournement d'argent, à l'exploitation sexuelle de mineurs et donc à la corruption. L'affaire Epstein amène à mettre le doigt au cœur du système du pouvoir international dans la sphère occidentale. Même s'il reste encore beaucoup à décrypter, on comprend qu'à ce niveau de magouille, les collusions dépassent largement les clivages affichés par le pour le populo, par exemple entre la Russie et Israël, ou entre la Russie et les États-Unis, ou entre Israël et la Russie. Et les États-Unis. L'échiquier international qu'on nous montre serait-il une construction, un storytelling, une belle histoire qu'on raconte pour le bon peuple? Donc, petite actualisation pour terminer, pour des informations qu'on a pu avoir donc en 2020. Réactivée par Trump, l'affaire Epstein a éclaté au grand jour, sauf dans les médias français où on se borne à parler de mannequins et parfois d'adolescentes, mais rarement. Donc je vous renvoie à d'autres articles qui sont sur le site Wanted Pedo, vous tapez Epstein, vous en aurez un certain nombre. Cela finira donc par un double faux suicide grotesque, mais le carnet noir ressurgit, alors qu'il était disponible depuis au moins 2015 sur Internet, et c'est toute la caste des hyper-riches dégénérés qui est enfin exposée, pour qui veut bien le lire et regarder les biographies des personnes citées. Il faut donc relever l'excellent travail de la chaîne YouTube « L'heure de se réveiller » qui pointe les liens avec le mercenariat, les contrats avec l'armée américaine, le trafic international d'enfants à des fins de minima d'esclavage sexuel. Donc la personne qui faisait cette chaîne YouTube a été menacée dans un procès par la secte Nexium qu'il avait attaqué dans une autre vidéo et aujourd'hui c'est PLS Silence Radio. Ghislaine Maxwell a finalement été arrêtée le 2 juillet 2020 par le FBI aux États-Unis. Et depuis le suicide le 10 août 2019 de Jeffrey Epstein, l'héritière avait disparu des écrans radars. Tout juste, la Britannique de 58 ans avait été aperçue et immortalisée 5 jours après le décès de l'homme d'affaires dans un fast-food de la chaîne In-N-Out à Los Angeles. L'ancienne maîtresse de Jeffrey Epstein a pourtant été arrêtée à Bradford dans sa luxueuse propriété du New Hampshire sur la côte est des États-Unis. Donc le 2 juillet 2020 à 8h30, a révélé NBC. Son acte d'accusation, long de 18 pages, a été mis en ligne dans son intégralité par le New York Times. Le fils de la juge chargée de l'affaire a été assassiné, par erreur à la place de la mère a priori, au domicile familial, par un faux livreur qui lui-même a été retrouvé suicidé, entre guillemets, quelques temps plus tard dans sa voiture. Donc vous imaginez la scène, donc il y a un livreur qui arrive, c'est pas la juge qui ouvre la porte, il tue le fils, ou alors c'était pour faire pression sur elle, en tout cas, voilà ce qui s'est passé. Il y a un article donc, qui est sur Wanted Pedo qui détaille ce fait divers, habituel hélas dans ce genre d'affaires. Jean-Luc Brunel, de son vrai nom Ben Chamoul, a été raté le 16 décembre 2020 à l'aéroport de Paris-Roissy alors qu'il tentait de fuir au Sénégal. On peut également signaler un livre sur l'affaire Epstein, donc un livre américain qui a été rédigé par trois excellents journalistes d'investigation et qui a été traduit en français, donc aux éditions Le Jardin des Livres. Donc c'est notamment Dylan Howard qui a dirigé ce livre et que je vous recommande, où on confirme, on va dire, un certain nombre de choses. Donc notamment le mécanisme de chantage de la sextape pédo mis en place par Epstein pour le compte du Mossad et de la CIA, permettant de tenir toute l'élite politico-financière et médiatique qui est passée par ces soirées. On confirme également, preuve à l'appui, que des milliers de vidéos et de photos de toutes ces scènes ont été bien saisies dans les coffres-forts chez Epstein par le FBI et dans son appartement à New York, et qui sont donc utilisables par le gouvernement américain. Donc si on veut, on a, au-delà du carnet, on a enfin énormément de matériel vidéo sur beaucoup, énormément de gens, évidemment. On y confirme principalement de sources de première main que, premièrement, donc Trump et le FBI détiennent des milliers de DVD et de photos de personnes filmées à leur insu en train d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs, saisies dans les différentes maisons d'Epstein, donc à New York, mais également à Paris, sur l'île Saint-James, Orange au Nouveau-Mexique et à Palm Beach. Confirme également donc que Epstein faisait tout son réseau de chantage pour le compte du Mossad et c'était son fonds de commerce depuis toujours. On confirme également qu'un policier de Palm Beach a pris une copie de tout le matériel vidéo et photo qu'il avait lui trouvé à Palm Beach, qui était uniquement dans la maison de Palm Beach, et il l'a amené en Russie où il est réfugié aujourd'hui et où en fait il se sert de ce matériel vidéo et photo pour se protéger. Il ne le divulgue pas et dit que s'il lui arrive quoi que ce soit, ça sera divulgué. Voilà, donc en gros, il était suffisamment malin pour arriver à sauver sa vie, quoi. On confirme également que Bill Gates était très très proche de tout ça, avec son adjoint, qui a la main sur la fortune d'Epstein. Je vous laisse regarder en détail, je ne me souviens plus exactement de son nom. Et sans doute des coffres en banque où il peut y avoir du matériel, et qui a continué à les voir régulièrement après son arrestation en 2009. Alors en fait, ce bras droit de Bill Gates a été nommé par Bill Gates peu avant de mourir comme ordonnateur de sa succession en cas de décès. Hein, quand même. Et puis également, donc pour la suite, Bill Gates a continué à voir Epstein, c'est de manière attestée, après ses ennuis à Palm Beach, avant que l'affaire sorte en 2019-2020. Et ce comportement et ces preuves ont été pris, en tout cas, soi-disant pour sujet, pour que sa femme Melinda Gates demande un divorce très récemment, là, en 2021. On rappelle que Bill Gates s'est très mêlé à tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la vaccination, l'eugénisme et au Covid, et que visiblement, voilà, d'une manière ou d'une autre, les casseroles qu'il avait via le réseau Epstein ont été utilisées d'une manière ou d'une autre pour lui nuire aujourd'hui. Alors après, dans quel sens? Bien malin, qui peut le dire? Et par qui? La dernière chose qui est peut-être la plus importante, c'est donc la lettre d'information faits et documents, qui est une lettre d'information payante, mais néanmoins vous pouvez trouver sur l'article, sur le site internet, les réseaux pédocriminels Rhône 2, tous les PDF avec la biographie de toutes les personnes qui figurent dans le carnet noir d'Epstein ou qui ont pris l'avion d'Epstein. Si vous vous demandez parfois qui sont les ils qui dirigent le monde, comment ils tiennent tant de gens importants dans leurs mains, la liste est là. Ils y sont tous, de A à Z. Bon, sauf évidemment les petits malins qui étaient au courant ou qui avaient vu le coup venir et qui ont évité de se faire filmé ou de trop fréquenter avec lui puisqu'il savait pour qui il travaillait. Mais néanmoins, c'est vraiment hallucinant et j'ai envie de dire, ça démystifie complètement voilà, ce qu'on peut traiter de complotiste ou quoi que ce soit. Juste lisez ses biographies et vous comprendrez totalement qui est cette caste, nommément les familles voilà, qui sont liées, qui font ces choses-là, qui se tiennent les uns les autres, qui gagnent de l'argent ensemble, etc., etc. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine.